Rien ne va changer mon monde. Florian, vous êtes habillé comment en fait là ?
La petite laine.
Parce que, non, c'est pas vrai. C'est quoi ? C'est une sorte de... C'est rien. C'est une seule couche. En bas, c'est un pantalon de toile.
Une seule couche.
Alors, on va peut-être quand l'émission va commencer, on va faire la nouvelle rubrique L'homme qui n'a jamais froid. Je vous ferai peut-être un petit générique comme ça à la bouche. L'homme qui l'a. Ou alors peut-être Arnaud, peut-être à la guitare. Oui. Voilà. L'homme qui n'a jamais froid. Message d'espérance pour les gens qui rajoutent des couches chaque jour. Bonjour Florian.
Bonjour Edouard.
Florian, vous êtes habillé aujourd'hui d'un pantalon de toile beige.
Voilà.
C'est une cotonnade ?
C'est ça, une petite cotonnade.
Regardez.
Normalement, c'est le short, mais aujourd'hui avec...
Oui, alors il est en short. Jusqu'à moins 5, c'est short. Et à voilà. Partir de moins 6...
Petite cotonnade quand même.
Alors, vous avez un... C'est une sorte de... C'est un petit peu technique,
une
mais c'est très échancré.
Voilà.
Vous avez des poils
fait
sur
chaud,
le
du
torse.
Coup. Voilà.
Ça vous aide l'hiver, les poils
voilà.
Sur le torse ?
Voilà, une pilosité qui m'aide un peu à, dans les températures
alors,
en dessous de moins 5.
Est-ce que l'été, vous retirez vos poils ?
C'est ça. Pour avoir un petit peu moins chaud.
À chaque fois qu'on dira le mot poil, Arnaud, vous recommencerez. Alors, Florian, vous nous apportez des... Pourquoi Florian est là ? C'est pas qu'il a écrit des livres, c'est pas qu'il se présente aux primaires du PS, c'est parce qu'il nous apporte des croissants. Et c'est le mot poil qui doit... ce matin, il y a des particularités, Florian.
Voilà, en plus des croissants pain au chocolat, on a une petite cuillère.
Oui.
Donc, crème brûlée vanille avec un gélifié de framboise.
On est sur un gélifié de framboise, une framboise qui a été saisie par le froid.
Oui. C'est ça. deux petits muffins boulangers, donc une brioche individuelle, avec un petit crème au citron, caramel au beurre salé.
Oui.
Et puis un pain d'Antoine, donc un pain au chocolat avec feuilletage cacao, écorce d'orange confite.
C'est tout.
Et
c'est
du
tout.
Chocolat.
Non, c'est le poil. Vous avez entendu poil ? Pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça, chers auditeurs, Trice ? C'est pas du tout pour vous faire rager du genre chez nous, c'est mieux que chez vous. C'est parce que vous avez le sens du partage et de savoir qu'on va bien se régaler. Ça vous fait plaisir, nous aussi. Thomas, on va faire un truc très journalistique tous les deux ou pas ?
Je sais pas.
À tout de suite après Thierry Paré. Poil.
Radio Nova.
Barack Obama a commis...
Ah non, ne commencez
bonjour,
pas
bonjour,
par des
bonjour,
bas,
bonjour,
des trucs
bonjour,
comme
bonjour,
ça.
Bonjour, bonjour.
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 Voilà.
Barack Obama a commué la peine de l'ancienne taupe de Wikileaks, Chelsea Manning. Elle retrouvera la liberté le 17 mai. Militaire, transsexuelle, elle avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks.
C'est beaucoup.
Antonio Tajani, va falloir nous faire à ce nom, ex-officier, ancien porte-parole de Silvio Berlusconi. Il a été élu président du Parlement européen en remplacement de Martin Schulz. L'Allemand est resté 5 ans au poste et il file en Allemagne pour se présenter aux prochaines élections nationales.
En même temps,
nationales.
Dans la conversation de tous les jours de nous autres, on disait pas tout le temps ça va, des nouvelles de Martin Schulz, dis donc Martin Schulz il charrie en ce moment, dis donc il a fait quoi Martin Schulz, donc comment s'appelle l'autre ?
On connaissait son nom, il s'appelle Antonio Tajani.
Oui, on va pas être envahi par ces conversations à base de ce nom-là.
Après avoir été
c'est
enfariné...
toujours ça de gagner.
Après avoir été enfariné à Strasbourg il y a quelques jours, Manuel Valls a été bousculé hier lors d'un déplacement à Lamballe dans les Côtes d'Armor. Un jeune homme de 18 ans a giflé le candidat de la primaire à gauche avant d'être plaqué au sol par le service de sécurité. Évidemment, l'ancien Premier ministre entend porter plainte. Des mesures disproportionnées, tel est l'intitulé d'un rapport d'Amnesty International consacré aux évolutions législatives de 14 pays européens, dont la France, qui ont subi des attentats depuis 2 ans. Selon Amnesty, la vague terroriste islamiste qui a frappé plusieurs pays d'Europe est parvenue à fragiliser le socle de valeurs qui faisait la force et l'unité du vieux continent. Le rapport d'Amnesty met en évidence l'impact sur les droits de l'homme des mesures prises contre le terrorisme dans donc 14 États membres de l'Union européenne. Au moins 50 personnes ont été tuées au Nigeria dans le bombardement par erreur d'un camp de réfugiés. 6 employés de la Croix-Rouge nigériane figurent parmi les personnes tuées dans le bombardement. 13 autres ont été blessés. C'est une info du Comité international de la Croix-Rouge. On va passer au sport avec la victoire de l'équipe de France hier en handball dans le mondial face à la Russie. 35 à 24. La France était déjà première de son groupe et déjà qualifiée pour les 8e. Elle est sûre de terminer première. Dernier match de poule pour les Français, ce sera vendredi contre la Pologne. Match à 17h45. Un mot de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs hier. Le Ghana a battu l'Ouganda 1-0 et le Mali a fait match nul face à l'Égypte 0-0. Au programme aujourd'hui, Gabon, Burkina et puis Cameroun, Guinée, Bissau. Et puis un mot aussi du Vendée Globe. Armel Lecléache et Alex Thompson touchent au terme, sans doute demain. Les deux hommes dominent toujours la course à la voile. 100 000 les séparaient, c'était lundi. Il n'y en a plus que 30 ce matin, c'est-à-dire moins de 80 km.
Merci beaucoup Thierry. Manuel Valls bousculé et giflé hier soir. Tout de suite, la réaction de mon invité. Il est 7h05. Bernard Brossard, bonjour.
Bonsoir.
Bernard, vous êtes l'homme le plus giflé de France. Vous avez à votre actif plus de 2432
gifles
reçus. 2432 gifles
par
reçus.
Par jour.
Ah d'accord, par je jour. Croyais que c'était un bilan. Bernard m'a dit...
C'est un
moi,
bilan, mais par jour.
Par jour. Vous me dites, mon honneur, ma fierté, c'est de ne jamais rendre la gifle. Quand tu reçois une gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Vous mettez les principes de l'éducation catholique en pratique. Recevoir des gifles, c'est d'abord provoquer la gifle chez le gifleur.
C'est une sorte d'art martial qui permet de...
Inverser,
oui, qui permet de prendre l'énergie de son adversaire pour la prendre à soi-même. Et puis, il faut dire que je prends beaucoup de plaisir à ça.
Alors, les gens ne vous voient pas, vous n'avez pas de dents, vous n'en avez plus, vous en avez
J'ai
eu
plus de mâchoire.
Plus de mâchoire.
Depuis 88.
Bernard Brossard, être giflé, est-ce qu'il faut savoir provoquer l'autre ou vous n'avez pas besoin d'énerver pour être giflé?
Non, je crois que j'ai une gueule de...
Il m'énerve, pardon. attendez, je suis désolé. Excusez-moi.
J'ai rien dit.
Je suis désolé à tout de suite, j'ai passé plus fort que moi. 2738, 2435, 2438, 2439.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird, Pouette Pouette la hurlette, Tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Thomas Baumgartner,
bonjour,
de la rédaction centrale de Radio Nova. Ouais. Que pensez-vous du concept de lancer le générique début après le début ?
On est les premiers à faire ça.
Peut-être les derniers, peut-être les
seuls. Oui, c'est ça, il y a peut-être une raison, en fait. Voilà.
Oui. Est-ce que vous pensez qu'on approche du génie ?
Ouais. On le voit au loin, mais il court très vite.
Il court très vite, il faut le rattraper. Vous avez épluché la presse ce matin.
Non.
Alors, moi, j'ai un peu regardé. C'est très intéressant parce qu'en Libération, vous avez Kim Kardashian de face. Ouais. Et Le Monde, c'est Donald Trump de dos. Donc, deux visions de l'Amérique, deux propositions corporelles. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon?
Je pense que les États-Unis sont un Janus Bifron. C'est ça que ça signifie.
Vous pouvez m'excuser?
Voilà.
Oh la vache. Oh, je pensais pas l'entendre, Janus Bifron.
Non, l'autre chose qu'on voit dans la presse, c'est le retour du... C'est une bonne nouvelle, c'est le retour du ressenti. Peut-être l'arrivée du ressenti.
Allez-y, développez.
Bah, c'est-à-dire qu'on trouve des convertisseurs de température, et quand il fait 0 degré mais qu'il y a du vent, on se rend compte que à 0 degré, avec 15 km/h de vent, on ressent moins 4 degrés.
Michel Bomard, vous avez quoi là ?
Oui, justement, j'ai avec moi un tableau qui permet de reconstituer les températures. Par exemple, s'il fait moins 10 degrés et que nous avons un vent à 30 km/h, nous avons une température ressentie à moins 20.
C'est traduit en des termes très précis par Michel Bomard, qu'on appelle aussi Catherine Laborde, c'est votre autre nom à la télévision, oui. Avec une autre voix. Donc spécialiste.
J'ai la même voix, mais j'ai pas le même corps.
Est-ce qu'on peut tirer de cette idée de température réelle, température ressentie, est-ce qu'on peut ensuite aller dans vers le pays réel et le pays ressenti ?
On peut aller dans l'idée que chacun a son monde intérieur, je pense. Surtout ça, voilà, qu'il faut pouvoir les réconcilier.
Je suis tellement content de ma question, j'aurais préféré pas de réponse. C'est côté journaliste du matin. Je vous propose une chanson.
Il le pense vraiment.
Bonjour Génie Poumaillou, bonjour Armelem.
Bonjour
Florian, votre boulangerie s'appelle comment ?
Farineo.
Voilà, un petit peu de pub, j'aurais de quoi se faire. Je vous laisse rester ici. Et puis plein de gens, plein d'invités, et puis ma voix qui peut monter dans des aigus comme ça. Quel est le premier morceau ?
Max Rab.
Ah, j'aime beaucoup Max Rab, qui est une sorte de son d'orchestre viennois, qui reprend des standards pop-rock. Et là, je crois que c'est Britney Spears qui est interprétée par Max Rab.
Juste après une petite minute de pub.
Jeune à jour, jeune toujours.
7h, 9h, plus près de toi.
Il est 7h13. Bonjour Christophe Payet.
Bonjour.
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 Bonjour. Il y a plein de types de voix ce matin. C'est dire que vous êtes le bienvenu, Christophe.
Merci.
Christophe, vous êtes spécialiste de ce qu'on ne voit pas, hein, de ce qui se passe avec des fils électriques qui devient de la virtualité.
Internet ? Vous parlez d'Internet ? C'est ça.
Christophe, le 20 janvier, le président Trump va être vraiment président. Et c'est aussi la date à laquelle les comptes Twitter et tous les réseaux sociaux officiels du président Obama vont passer à Trump. Le fameux @potus, c'est ça ? @potus.
Oui, c'est ça. En fait, c'est historique parce que ça va être la première transition digitale. Alors, on a beaucoup parlé dans les médias de l'usage fait par Trump des réseaux sociaux. Là, ça va être très particulier puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de comptes officiels qui avaient été créés pour Obama, notamment POTUS, President of the United States, FLOTUS pour la First Lady, VP pour le vice-président. Et vendredi, officiellement, Donald Trump va prendre la main sur ses réseaux sociaux. Et il l'a commenté lui-même par ces termes, bing, bing, bing. Voilà, bing, bing, bing. Bing, 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 ça fait un peu bonga, bonga, ça fait un peu boum, boum, ça fait un peu bling, bling, on est dans l'onomatopée.
C'est un tweet de Trump.
Non, en fait, c'est une interview. C'est une interview dans laquelle il dit que, donc, I can go bing, bing, bing. À partir du moment où il va prendre en main ce compte. Alors, comme toutes les expressions de Donald Trump sur Twitter, c'est un peu confus, un peu ambigu, on comprend pas bien ce qu'il veut dire.
Et vous pensez que son programme, bientôt, ça va être « Wow, yeah !» qu'est-ce que vous projetez pour les mois prochains en Amérique ?« Wow, go, oh, ah !»
Ce qui est sûr, c'est que c'est en fait extrêmement inquiétant. Enfin, c'est grave cette transition du compte POTUS, donc qui avait été créé pour Obama. Le premier tweet, c'était en mai 2015, 18 mai 2015 pour Obama. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces comptes, en fait ? C'est-à-dire, POTUS, c'est 13,6 millions de followers. Obama, lui, sur son compte personnel, en a 80 et Trump en a 20. En fait, la Maison Blanche a mis en place un processus de transition pour cette première historique, c'est-à-dire que Trump va garder tous les followers du compte.
Oui.
En revanche, les tweets d'Obama vont, eux, être mis sur un compte à part, POTUS 44, qui va être géré par les archives nationales. Parce qu'en fait, il est question, là, d'archiver la parole politique.
C'est
et de la conserver.
En fait.
Ouais,
c'est
exactement,
l'histoire.
C'est de l'histoire. Mmh. Donc, comment on conserve la parole politique sur Twitter ? Le problème, c'est que Trump a dit, lui, qu'il continuerait d'utiliser son compte personnel.
Ah, donc il aura un on et un off, c'est-à-dire le compte du président lui dira et le compte personnel il faut.
Bah, c'est toute la question en fait, comment va être géré le compte officiel ? Est-ce qu'il y aura une communication à deux vitesses avec la communication officielle contrôlée et la vraie communication débridée de Trump sur son compte perso ? En tout cas, c'est pour ça qu'il a dit bing bing bing, il a précisé maintenant je vais pouvoir m'exprimer en 280 caractères, c'est-à-dire 2 × 140.
C'est long, hein. Il y a pourtant.
Ça fait beaucoup.
Il y a que faire de tous ces caractères.
On a de la place pour dire des conneries en 280 caractères. Alors, ça pose bien sûr des questions de gouvernance, de transparence. C'est-à-dire que l'usage que Trump fait de Twitter est en fait un usage extrêmement transparent. On peut dire que c'est le président le plus transparent de toute l'histoire, puisqu'il annonce toutes ses intentions, tout ce qui lui passe par la tête. Mmh.
Et là, on voit avant que ça passe par la tête, ça passe d'abord
sur voilà,
Twitter.
C'est ça.
Et donc, il n'est pas sur LinkedIn J'aime bien, je suis obsédé par
vous
ceci.
Vous aimez bien LinkedIn.
Je suis obsédé par LinkedIn. Oui. J'adore ça. En ce moment, il y a des gens qui me demandent sur LinkedIn. Excusez-moi, Christian, je vous ai interrompu.
Donc, on peut se demander si effectivement une telle transparence, en fait, est une bonne chose pour la gouvernance. Hein. Le directeur de la CIA, John Brennan, l'a quand même mis en garde hein, sur la façon dont il utilisait Twitter, notamment sur les aspects diplomatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut considérer Trump sur Twitter comme un artiste. Il y a le New York Times qui a écrit un article sur l'art de tweeter selon Trump. Ce qui était très drôle, c'est que c'était vraiment dans la rubrique art du journal. Et en fait, Trump ne tweet pas comme un homme politique, il ne tweet pas comme un businessman, il tweet comme un people, c'est-à-dire qu'il va tester immédiatement sa popularité, qu'on peut ressentir extrêmement rapidement avec les retweets, etc. Il n'a pas de stratégie sur Twitter, il est dans la spontanéité, c'est-à-dire qu'il est dans l'essence de ce réseau social. C'est-à-dire qu'en gros, il a compris ce qu'était ce réseau social, sauf que il l'utilise pas comme devrait l'utiliser un président. Il l'utilise comme le kidam sur Twitter, comme le people.
Mais il met des photos de lui en maillot de bain sur Instagram ou pas ? Je ne me rappelle pas du tout Trump. Non, il n'y a pas des photos à la plage avec un petit cocktail. Mais, regardez les filles.
Mais quand on dit qu'il tweet comme un people, c'est-à-dire que encore une fois, il est dans la spontanéité de la mise en scène. Oui. Et en fait, il n'a pas de stratégie. Ça veut dire que quand il va s'exprimer sur le nucléaire, c'est pas forcément réfléchi, c'est juste qu'il est peut-être en train de live-tweeter l'émission qu'il est en train de regarder sur Fox News.
D'accord.
Et ce qui est terrible, c'est que derrière, Fox News va ensuite réagir à la déclaration de Trump sur Twitter. Et là, le serpent se mord la queue en termes de communication politique.
Ça va du scandale permanent, du spectacle permanent. Voilà. Merci, merci Christophe Hayé. Mon invité de 7h18, elle tenait une petite maison d'hôte dans la banlieue de Chicago. Et puis elle s'est aperçue qu'il pour parler à plus de gens, il fallait passer par les réseaux sociaux. Rosemary Internet, bonjour.
Bonjour.
Rosemary, vous êtes à votre nom. Il y a donc tout ce système de communication qu'on appelle Internet.
Oui, ben, viens juste d'avoir la connexion. Mon petit-fils m'a inscrit sur Internet.
Mais Rosemary Internet, au départ, quand vous avez créé ça, c'était pour vous amuser avec les voisines?
Oui. En réalité, j'ai pas vraiment écouté votre question au départ, ce qui fait que ça m'a un peu troublé par rapport à l'improvisation. Enfin, à ce que
je vais te dire franchement, Bernard. Ouais. Moi, je t'invite dans le sketch. C'est un sketch que normalement, je devais faire avec des génies du stand-up qui voulaient le faire avec moi. J'avais Jamel, j'avais Kev Adams qui était partant pour le faire avec moi. J'ai eu Gad Elmaleh qui m'a dit « je te le fais aux internets
ouais, ». Ouais.
Je vous invite à le faire avec moi. Qu'est-ce que vous en faites?
J'ai passé un casting et tout.
Non, mais c'est pas ça. J'ai des auteurs, j'ai une équipe, j'ai des producteurs.
Je sais.
Ça doit partir en ligne dans 3 minutes. Là, j'ai tous les...
J'ai un problème avec ma sœur en ce moment et j'ai pas eu le temps de bosser et c'est tout. J'étais
bon, alors comment va votre sœur?
Ben, ça va parce que finalement, elle a retrouvé son sac.
Bon, alors elle l'avait laissé dans un restaurant?
Non, dans le métro, elle l'a perdu. Et
on lui a chouré.
On lui a chouré.
Bon.
Et elle n'a pas retrouvé des choses que.
Peut-être le jeune, c'est peut-être un jeune qui lui aurait chouré avec, qui a regretté le geste après.
Ça sentait le jeune dans le sac.
À tout de suite. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié quoi?
Ah.
Jack, souvent dans la rue.
Alors, toujours beaucoup d'informations en même temps, mais là, je suis rue du Pas de la Mule. Et elle est déserte.
Vous êtes sur Paris?
Oui.
Vous êtes monté sur Paris? Oui.
La rue du Pas de la Mule. Alors j'essaye de trouver le Pas de la Mule, mais je n'y arrive pas vraiment.
C'est fresque, oui.
Alors j'observe, il y a des petites touillettes à café sur le bord d'un trottoir. Je suis devant le poteau qui s'appelle S9506.
Oui, je vois.
Et là, il y a une chose formidable, c'est que comme c'est désert, dès que je vais voir une silhouette surgir dans cette rue...
Vous allez avoir peur.
Je vais aller à sa rencontre.
Est-ce que je peux poser des questions personnelles, Jacques, souvent ce matin?
Oui, mais doucement, hein, tranquillement.
Pourquoi vous êtes rue du Pas de la Mule?
J'étais un petit peu lent ce matin.
Donc vous êtes allé au hasard, vous dites où est-ce qu'il n'y aura personne, où est-ce que je vais être peinard?
Oui, ça m'a plu. Et je me suis dit, j'aurais pu aller sur un boulevard rempli de gens qui allaient au métro et tout ça. Je me suis dit non, je vais aller dans une petite rue déserte.
Alors imaginez, je suis un auditeur de Brest, je suis habitué aux embruns et j'entends la rue du Pas de la Mule. Décrivez-nous, c'est dans quel coin de Paris? Moi, je veux
oui, alors on est tout près de la place des Vosges.
Oui, la place des Vosges.
Voilà, beaucoup de galeries, des arcades magnifiques. Il y a un petit jardin qui est la place Louis XIII, je crois. Là, il y a des petits déjeuners. Je me suis fait jeter par un café, là, parce que le gars attend deux personnes qui sont en retard. Ah, écoutez, deux personnes se dirigent vers moi.
Attention, voilà. Jack, souvent, vous prenez des risques.
Je cours vers mon risque.
Toute beauté, va vers ta chance.
Voilà, je vais vers ma chance.
Oula.
Ça décharge en même temps. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes de bonne humeur? Et oui, ça va aller. Vous êtes dans quel coin, là? Oui, par contre, on fait le tour de la place.
Pourquoi ils sont de bonne humeur? Est-ce que je suis de bonne humeur, moi?
Pourquoi vous êtes de bonne humeur, madame? Pourquoi vous êtes de bonne humeur?
Et pourquoi pas? C'est quand même plus agréable. Par contre, oui, bon, s'il vous plaît.
C'est le micro, c'est le micro. C'est toujours un truc un peu bizarre.
Essayez de faire parler les gens sans micro. Trouvez des solutions.
C'est tendu. Bonne journée.
C'est sympa, cette dame de bonne humeur. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame?
Ben, je sais pas. J'ai l'impression qu'il sortait d'un petit endroit improvisé, en tout cas. Alors, vous voyez, ça y est, c'est marrant. Hein. Il suffit de deux personnes et ça déclenche d'autres mouvements. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Hein? Les livraisons, tôt le matin.
Tôt le matin, Paris livre.
Non, que de la crèmerie.
Paris s'approvisionne.
Bon lait, de la
Paris
crème.
A faim. Voyez, Paris veut manger.
Ah non, ça commence.
Paris
veut. Il faut les faire signer le bon.
Eh oui.
Paris signe.
Faire signer, faire vérifier.
Paris vérifie.
Voilà.
Paris et voilà.
Bah, je continue. Bon
Paris
courage
continue,
à vous.
Paris pas mort.
Par ce froid.
Paris gagné, Paris à froid. Paris se réchauffe. Paris se prend par la main.
Foie de veau persillé, pomme vapeur. Filet en daube.
A tout de suite, voilà. Jack Souvent.
Oui, revenez vers moi.
Docteur Claude Chirol, vous êtes pédopsychiatre. Vous êtes psychanalyste, vous êtes aussi spécialiste de race canine et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « La bonne humeur est une pathologie des temps modernes ». Où vous expliquez que la bonne humeur est une maladie qui peut saisir des gens le matin et qui crée beaucoup de tort.
La bonne humeur est triste,
quand on regarde réellement ce qui se passe au niveau social.
Alors, page 34, vous dites « Quelqu'un qui sourit, c'est louche ».
Évidemment, puisque c'est un caractère emprunté à un film qu'on a vu, un film américain. Souvent, on voit des jeunes gens s'ébattre.
On veut imiter la comédie romantique.
Le bonheur, on se croit heureux.
Page 35, vous dites le contraire.
35, je dis exactement le contraire pour pas rester sur un acquis.
Alors page 36, c'est un dessin. C'est un dessin qui représente Mickey et Minnie à la plage. Allez, bonne journée.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Ah, ah. Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Il fait une chaleur dans ce studio et Edouard est sorti du studio.
C'est Guylaine Londès qui vient d'arriver.
Qui vient d'arriver ?
Il y a Guylaine qui vient nous dire bonjour, la comédienne Guylaine Londès. C'est elle qui fait la voix, d'ailleurs, j'écoute plus près de toi. Ah. Juste dans le jingle, c'est
bonjour.
Pas pour ça qu'elle
bonjour
est.
Bonjour Guylaine.
Beaucoup. Pardon, on va être dans le journal. Guylaine, restez, écoutez le journal de Thierry Paré avec un petit crayon, prenez des notes pendant. Okay. Et vous me dites s'il y a des choses qui vous ont fait flipper, flasher.
Radio Nova.
10 secondes d'avance sur le journal de 7h30, c'est du lourd.
Bonjour, les agents de la DGSE, service de renseignement extérieur français, pensent avoir identifié l'un des kamikazes qui se sont fait exploser au Stade de France. C'était le 13 novembre 2015, évidemment, personne n'a oublié. Pendant des semaines, l'homme soufflé par sa bombe n'a eu qu'une identité provisoire, celle figurant sur un faux passeport syrien retrouvé déchiqueté à proximité. Ce terroriste était âgé d'une vingtaine d'années, il venait de Mossoul. J'ai pas son identité précise pour l'instant, mais voilà. L'une des femmes ayant accusé Donald Trump d'agression à caractère sexuel a déposé plainte pour diffamation. Elle estime que le démenti et les propos tenus à son égard par le président élu lui a causé un préjudice émotionnel et économique. Plusieurs groupes de chercheurs et professeurs en anthropologie américains ont planifié vendredi, donc le jour de l'investiture de Donald Trump, d'organiser des leçons, des lectures publiques consacrées notamment à Michel Foucault, enfin consacrées plutôt à son ouvrage « Il faut défendre la société » qui regroupe une série de conférences données au Collège de France en 75 et 76. Les textes de cet ouvrage seront donc déclamés dans tout le pays vendredi et notamment à l'université célèbre de Columbia. Barack Obama a commué la peine de l'ancienne taupe de Wikileaks, Chelsea Manning. Elle retrouvera la liberté le 17 mai. La militaire transsexuelle avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks. Ex-officier, ancien porte-parole de Silvio Berlusconi, Antonio Tajani a été élu président du Parlement européen en remplacement de Martin Schulz, qui lui entend se présenter aux élections en Allemagne. Après avoir été enfariné à Strasbourg il y a quelques jours, Manuel Valls a été bousculé hier lors d'un déplacement à Lamballe, c'est dans les Côtes d'Armor. Un jeune homme de 18 ans a giflé le candidat de la primaire à gauche. Manuel Valls entend porter plainte. Manuel Valls qui s'imposerait au premier tour de la primaire de la gauche selon l'Institut BVA, mais qui serait battu au second tour par Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Des mesures disproportionnées, tel est l'intitulé d'un rapport d'Amnesty International consacré aux évolutions législatives de 14 pays européens, dont la France, qui ont subi des attentats depuis deux ans. Selon Amnesty, la vague terroriste islamiste qui a frappé plusieurs pays d'Europe est parvenue à fragiliser le socle de valeurs qui faisait la force et l'unité du vieux continent. Le rapport d'Amnesty met en évidence l'impact sur les droits de l'homme des mesures prises contre le terrorisme dans tous ses États membres de l'Union européenne. Au moins 50 personnes ont été tuées au Nigeria dans le bombardement par erreur d'un camp de réfugiés, un bombardement par un avion militaire. 6 employés de la Croix-Rouge nigérienne figurent parmi les personnes tuées dans ce bombardement. C'est l'histoire d'une station britannique qui se trouve à 23 km à l'intérieur du continent antarctique. Et une station composée de 8 modules surélevés, couleur bleue, rouge vif, construite en 2012. 8 modules séparés par 2 fissures. 2 fissures dans la glace, l'une identifiée en 2012 et l'autre, celle de trop, en octobre dernier. Le personnel de la station a été évacué juste à temps, juste avant l'obscurité de l'hiver, en raison de craintes qu'elle ne se retrouve cette station sur un iceberg à la dérive. Le mondial de handball, l'équipe de France a surclassé les Russes hier soir. Les Français se sont imposés 35 à 24. Dernier match de poule pour l'équipe de France vendredi. Ce sera contre la Pologne, ensuite ce sera les huitièmes de finale. Les suites de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le Ghana a battu l'Ouganda 1-0. Le Mali et l'Égypte se sont séparés sur un nul 0 partout. Au programme aujourd'hui, Gabon Burkina à 18h et Cameroun Guinée-Bissau à 20h. Et puis un mot du Vendée Globe, on arrive au terme. Les deux premiers, Armel Lecléache et Alex Thompson, sont attendus au Sable d'Olonne demain. Armel Lecléache est toujours en tête.
Merci Thierry Paré. Est-il exact que vous avez été moniteur de ski aux Deux Alpes?
Oui, mais il y a longtemps.
Je vous remercie beaucoup. Tout de suite, la météo décentralisée de Tito. Tito? Vous êtes où? Il est près du lac d'Ourthe. On l'entend.
Attention maintenant, c'est parti, il fait froid, il y a du vent.
Tito, c'est très décentralisé. Tito, on dirait que vous nous parlez comme juste avant l'invention du téléphone.
Allô ? Alors, est-ce que ça a marché par téléphone ?
C'était pas génial, mais c'est tellement agréable de vous entendre que même s'il n'y avait pas... Mais on vous entend même quand on ne comprend pas. Et dites-moi, vous êtes où là ?
Ah, je suis chez moi, Hourtin. Et c'est pour ça, mais comme je ne reçois pas la presse et le journal, je fais à peu près ce que je pense.
Et puis là-bas, vous n'avez pas Internet non plus ?
Alors, j'ai pas Internet non plus dont tu parles.
Fais-nous la météo ressentie. Tu ressens quoi, toi ?
Alors, moi, ce que je ressens qu'il fait vraiment frais partout. Hein. Qu'il fait frais, mais qu'il fait sec.
J'aime bien quand c'est pas trop précis, la météo. Il fait plutôt froid.
J'aurais bien aimé reprendre la presse.
Donc, il fait sec, donc t'es corps aux pieds, tu te la paix.
Ouais, un petit peu, c'est ça. Ouais. Il va falloir mettre des grosses chaussettes.
Bon, très bonne journée.
Oh, merci les amis. J'espère que vous allez bien, hein, pétard.
Oui, grosse bise.
Ah, gros bisous. Ciao, ciao.
Ciao. Guylaine,
oui.
Vous êtes contente d'être là parce que l'on est content que vous passiez nous voir.
Ah, mais je suis très contente, oui.
C'est Guylaine Londès, vous avez eu un café ?
Non, pas encore.
Bon, bah alors, on écoute un morceau musical, Armel.
Alors, d'accord. Ah,
qu'est-ce que t'as ? Ah, ouais.
Oui, on peut écouter de la pub plutôt. C'est une idée comme ça.
Oh, c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Il y a une grosse demande là-dessus en ce moment.
Alors, c'est d'accord.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Juste après, retrouver le meilleur. Le meilleur, je sais pas quoi. Dites-moi, Thomas,
oui.
Approchez-vous. Qui est le Edouard. Type qui a une tête très sympathique, mais qui est en train de bouffer mes croissants de l'autre côté de la table ?
Il s'appelle Julien Cohen-Solal.
Oui, mais enfin, c'est pas une raison. Qu'est-ce qu'il fait ?
On lui a offert, enfin, c'est permis. On
oui, mais alors, ouais. Ah, mais c'est le monsieur de Cartable.
Absolument.
C'est bien joué ou pas, non ? Je l'ai bien la surprise. Bah, c'est le mec de Cartable. Alors, c'est formidable, Cartable. Rappelons ce que c'est, Cartable.
Oui, Cartable, c'est un environnement en ligne. Hein. C'est à la fois un site et une application. Ça existe depuis septembre 2013. C'est la quatrième année scolaire de Cartable. Et on compte en année scolaire parce que cette application et ce site s'adressent aux collégiens et aux lycéens. Et ça marche fort, non seulement auprès d'eux, mais dans les cours d'école même. Donc, vous allez pouvoir nous confirmer ça, Julien Cohen-Solal. Quatrième année scolaire.
Exactement, quatrième année scolaire, on est dans le rythme scolaire. Mm-hmm. On a lancé Cartable en septembre 2013.
C'est une manière d'accompagner les collégiens, les lycéens scolairement. C'est-à-dire que on en parle dans les cours d'école, mais c'est vraiment des cours.
Ah oui, c'est vraiment des cours. L'objectif et l'ambition de Cartable, c'est d'accompagner les élèves dans toute leur scolarité. Donc on parle vraiment de cours, d'exercices, quelque chose de très sérieux.
Alors c'est de la sixième à la terminale. Je suis élève de sixième en terminale, par exemple. Tiens,
Bonsoir.
Vas-y, pose une question.
Je voudrais savoir.
Donc, tu travailles pas très bien.
Je travaille pas très bien.
Tu voudrais être aidé en ligne.
Je voudrais être aidé en ligne.
Comment fait-il ?
Comment je fais ?
C'est très simple. Il suffit de se connecter soit sur le site web, cartable.fr, soit
avec
sur.
Avec un K.
Alors, on va y venir justement.
C'est très important. Je pense qu'il faut dédier un moment sur cette question. Mais donc, il suffit d'aller sur l'application ou sur le site, de se connecter et ensuite d'accéder à toutes les ressources qui concernent ton niveau. Donc, tu es en.
Je suis en quatrième, quatre.
Enfin, très bien.
Avec Madame Collineau.
Oui, oui, mais ça, c'est des détails. C'est des détails.
Mais mes parents ne veulent pas m'acheter l'ordinateur.
Attends, alors on va te retirer le micro parce que tu ne respectes pas les adultes. Ton adolescence se passe très mal et très boutonneuse de la voix. La voix est boutonneuse.
Non, mais ça peut se passer avec Madame Collineau. Et en même temps, on peut profiter des 200 profs qui sont derrière l'application. Vous travaillez, Julien Cohen-Solal, avec 200 professeurs qui font les cours.
Exactement. En fait, on travaille comme un éditeur scolaire et donc on a 200 enseignants de l'éducation nationale qui confectionnent, rédigent tous les contenus qui sont mis à disposition sur Cartable.
Alors, quand on est malade, quand on est absent, est-ce qu'on répond à des questions précises sur Cartable ou est-ce qu'on suit le programme ou est-ce que je peux poser une question à Cartable du genre « Merde, je suis là, je suis à cours de récré, tout là, il doit y avoir là-dessus un petit renseignement précis. Alors, sur mon programme. »
Pour l'instant, on ne peut pas poser de questions directement. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Mais c'est surtout pour tout ce qui est préparation des contrôles, révision quand on est à la maison. Ça fait vraiment la jonction entre la classe et la maison, en fait, Cartable.
C'est pour apprendre ou c'est pour réviser ?
Alors, on nous découvre souvent en révisant. Mmh. Donc, l'élève nous découvre quand il a contrôle demain et qu'il se rend compte qu'en fait, il ne connaît pas du tout son cours et qu'il a oublié en classe. Donc, il découvre Cartable pour réviser. Et puis, il y prend goût et il commence à l'utiliser en fil rouge tout au long de l'année pour apprendre, pour se perfectionner. Et pas juste pour les mauvais élèves. Il y a aussi les bons élèves.
Je ne suis pas un mauvais élève.
Dis donc.
Est-ce que, alors ce qui est drôle, c'est quand sur Internet vous pouvez voir ça, vous, c'est les pics de connexion.
Ouais.
C'est quoi les moments où vous avez le plus de collégiens et de lycéens qui viennent sur le site ou sur, qui se connectent sur l'application?
Alors le pic indéniable, c'est le bac. Hein. Donc surtout les lycéens, il y a un peu le brevet. Mais à partir du 1er juin, c'est, oui, c'est la panique. Hein. Donc c'est les premières années, on a eu du mal à suivre en termes de rythme. Mais là, maintenant, on est bon.
Un million de personnes tous les mois qui se connectent sur Cartable.
Exactement.
C'est délirant.
On a un million, ça représente un élève sur quatre aujourd'hui. Donc, ça fait 3 ans et demi que Cartable existe. Et on a, grosso modo, un collégien lycéen sur quatre qui l'utilise tous les mois.
Ça remplace les cours particuliers un petit peu? Ça remplace quoi?
C'est là pour apporter un soutien scolaire à tous les gens, soit qui ne peuvent pas en avoir, soit qui trouvent que le format n'est pas adapté.
C'est cher?
Alors, on a une partie gratuite.
Elle a l'air bien?
Elle est très, très bien. Elle est énorme, elle est vraiment excellente. Toute la partie connaissance court, elle est gratuite.
D'accord.
Et ensuite, quand on veut continuer, on veut aller plus loin et on veut...
Et avoir les corrections.
Et on veut faire de l'exercice, on veut faire des exercices,
notes,
etc.
Il faut donner un petit billet pour avoir une bonne
note. Il faut financer Cartable parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on paye 4,99€ par mois.
Mais une réussite de Cartable, avec un cas, c'est que vous avez réussi d'une certaine manière à intégrer le sérieux. Enfin, les cours, c'est sérieux. Il y a 200 profs, on l'a dit, derrière, 200 enseignants qui fabriquent ces cours. Et le cool, d'une certaine manière. Parce
exactement.
Qu'il paraît que quand je dis qu'on en parle dans les cours d'école,
on en parle sur Twitter. Et c'est le point essentiel de Cartable depuis le début, c'est de dire s'il y a un point qu'on doit adresser sur les jeunes, c'est leur motivation. Parce que c'est pas super motivant. Les jeunes n'ont pas forcément envie de réviser. C'est pas quelque chose qui les passionne plus que ça, même si je veux pas faire de généralité. Et on s'est dit, on est capable aujourd'hui, avec une application, avec un site web, de leur donner aussi envie de réviser leurs cours que d'aller sur Snapchat.
Et les jeunes, oui, pardon.
Non, justement, le coup, il y a un fonctionnement par gratification, c'est ça?
Comme dans un jeu, c'est ce qu'on fait. Et on est en train d'accentuer.
On gagne des points, alors.
Énormément. On gagne des points, on gagne des badges, on récolte, on progresse. Mm-hmm. En fait, il faut que l'élève voit une progression, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire quelque chose et de ne pas se voir progresser.
Ou une régression, mais il faut savoir où on en est. Et puis de là, s'appeler Cartable avec une faute d'orthographe, ça commence très bien, parce que c'est un K au lieu d'un C. On va sur Cartable, Cartable. Les jeunes, on en parle beaucoup, on ne les voit jamais, sauf chez nous. Bonjour, tout à l'heure, tu exprimais ta colère, tu disais chez Madame Collineau, je n'ai pas de bonne note, je suis tourmenté par cette adolescence.
Je suis vraiment tourmenté par cette adolescence, je ne trouve pas ma place au sein de la société, et c'est vrai qu'on ne m'en donne pas beaucoup.
Oui. Le monde est à refaire, tout est à jeter?
Je pense, mes parents, voilà, je...
Et les militaires,
ça dépend lesquels. Ceux qui débarquent sur la plage en Normandie, eux, ils sont chouettes. Par contre, ceux qui les tuent, eux, je trouve que non.
Ouais.
Dans un sens.
Je suis viré. On est content.
Mais c'est pas un vrai collégien.
On est content. Thomas, bon, si vous êtes content, Thomas vient tout de suite. Tout le monde est content.
Bon.
La grâce du petit Michael Jackson à l'époque des Jackson 5. Léonard, le mercredi, normalement, t'as cours, toi?
Oui, mais en fait, la réunion pédagogique.
Et quand il y a réunion pédagogique, donc quoi? Les enfants font quoi?
En fait, il n'y a pas cours.
Il n'y a pas cours? Et alors donc... ils vous préviennent au dernier moment? C'est quoi cette histoire?
Non, ils disent une semaine avant.
Une semaine avant? Donc là, il faut s'organiser avec les parents?
Oui.
Ou tu te gardes tout seul, toi?
On organise avec les parents.
Et tu as du sport, sinon, le mercredi?
Ouais, le tennis.
Tennis?
Et judo.
Ah oui, mais pas ensemble?
Non.
Parce que t'imagines, si tu donnais des coups de judo sur la balle, ça serait tout de suite fatigué.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Là.
Et le judo, tes ceintures quoi?
Verte.
C'est bien?
Ouais.
Ça correspond. On va faire un petit truc tout à l'heure, peut-être avec Guylaine, si vous faites un petit combat de judo avec Léonard. Hein? Ouais. Léonard, c'est quoi ton poème aujourd'hui?
Le globe.
Alors, j'ai ton cahier de poésie devant moi. Tu as fait un dessin à côté qui représente, qui est assez beau. Il y a trois couleurs. C'est quoi ton dessin? Tu veux nous le décrire, ce dessin?
C'est la terre avec Les trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique.
Alors l'Europe est rouge, l'Afrique est verte, l'Asie est jaune. Pourquoi tu as choisi le rouge pour l'Europe ?
Parce que sur les cartes, souvent, l'Europe, c'est rouge.
Alors, tu l'as représentée comme une grande tomate. Est-ce que tu trouves que chaque continent ressemble à un fruit ou à un légume ?
Oui, peut-être.
Tu dirais que la France est plutôt une banane ?
Je ne sais pas.
Oui, bon, c'est pas obligé de rentrer. Eh bien, on écoute le globe, mon vieux Léonard. Ça te fait 9 ans et demi. C'est important, les demi ou pas ?
Non.
Non, on peut dire 9 ans ou tu veux qu'on monte, qu'on dise 10 ?
J'aime bien.
10 ? Ouais, t'as 10 ans. Ok, Léonard, le globe.
Offrons le globe, enfin, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils puissent jouer en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Ils y prendront de nos mains le globe et ils y planteront des arbres immortels. Nazim Hikmet.
C'est super. Merci. Tu l'aimes bien ce poème ?
Oui.
Pourquoi tu l'as choisi ?
Je ne sais pas trop.
T'aimes bien les poèmes qui parlent d'enfants ?
Oui.
Et tu lis des livres qui parlent d'enfants aussi ou pas ? Pardon, je fais des petits sons avec ma bouche à cause du matin. Ça, c'est Jean-Noël Mistral, c'est le poète de l'émission.
Bonsoir, Léonard.
Bonjour.
C'est bonjour, hein, Jean-Noël.
Oui, mais la nuit se réveille à peine.
Oui, Jean-Noël, vous avez écouté, je vous ai vu très touché par le poème de Léonard.
J'étais très touché, j'étais subjugué par le flot de ta voix qui a mené vers des sortes de spirales d'inconstance. Et quand tu parles du globe, ça me fait rêver. Ça me touche, vraiment.
On écoute un poème de Jean-Noël, Léonard ?
Je veux bien.
D'accord. Bah alors on l'écoute, puis on a le droit sur l'impôt, on a le droit de le dire.
Bien sûr.
Hein ? On vous écoute, cher Jean-Noël Mistral.
Moi aussi, je m'écoute.
Oui.
Tout le monde s'écoute.
Oui, alors on y reviendra.
Les gendarmes m'ont pris. Les gendarmes m'ont pris. Je marchais dans la forêt quand, soudain, deux gendarmes sont apparus. Puis, ils m'ont pris. Ils m'ont dit...
Ah zut.
Donnez-moi vos papiers. Je leur ai dit, mais je n'ai pas de papiers. Les voici mes papiers. Et je leur ai tendu des feuilles mortes. Alors, soudain, ils m'ont dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez un permis de conduire ? Non, je n'ai qu'une charrette et un chien qui boite. Alors, ils m'ont dit, venez. Venez parmi nous. Ils m'ont amené dans leur commissariat. Et là, dans leur commissariat, ils m'ont tapé et ils m'ont mal nourri et ils m'ont mis à l'intérieur de la prison. Et là, j'étais à l'intérieur de la prison. Et là, soudain est arrivé un homme pour me défendre, un avocat. Et il m'a dit, mais monsieur, vous... Bon. Et puis, l'avocat a commencé à me frapper tellement j'étais libre.
Ah oui.
Et ils m'ont regardé comme ça 3 ans. Peut-être j'aurais pu l'écrire, j'aurais pas dû forcément improviser.
Non, c'est bien, c'est bien.
Et soudain, un coq est arrivé par la fenêtre.
La fenêtre de la prison.
Et il m'a amené 4 figues. Aussi, je le regardais. Bien sûr qu'il n'existait pas, bien sûr que c'était un coq imaginaire.
D'accord.
Et là, les policiers, eh bien, ils ne savaient plus quoi faire parce que c'était... qui était en prison alors que moi j'étais libre mais enfermé. Alors que eux ils n'étaient pas en prison.
D'accord.
Mais pas moi. Moi je l'étais mais pas vraiment puisque j'étais libre.
Bon.
Moi je me gargarise de la crevasse de la blatte. Je lui parle à la blatte parce que on n'est plus vraiment dans le poème là. On
fait signe qu'on n'est plus du tout dans les horaires non plus. Merci Jean-Noël. Tu as aimé le poème de Jean-Noël, Léonard ?
Oui.
C'est gentil. Et si tu étais le seul sur Terre à avoir aimé ce poème, tu continuerais à l'aimer quand même ?
Oui.
Eh bien, je te félicite pour ton courage. Tu es seul contre tous, tu es un type super, Léonard. Bonne partie de tennis.
Merci.
C'est une nouveauté, ça.
Ah oui,
quelque chose de très nouveau.
Oui.
Rémi featuring Sampa the Great à l'instant avec For Good.
Ah ouais, j'ai presque compris ce que j'ai. Merci.
Je dis très vite exprès.
Thierry Paret, il est 8h01, cher ami.
Radio Nova.
Ce mercredi est la journée la plus froide de la semaine, sans doute même de l'hiver. François Hollande doit présider dans une heure une réunion ministérielle sur la mise en œuvre du plan Grand Froid. Concernant l'approvisionnement électrique, le pays sera suffisamment approvisionné aujourd'hui, mais la situation va rester sous forte vigilance pour les jours suivants. Le Sud-Est, en revanche, connaît une situation assez préoccupante pour son approvisionnement en gaz, notamment du fait du quasi-arrêt des livraisons depuis l'Algérie. Et puisqu'on parle de la météo, du temps, du ciel, la Chine a interdit aux bureaux locaux de la météo d'émettre des alertes à la pollution de l'air. Les villes de Chine sont régulièrement frappées par un brouillard grisâtre chargé de particules fines très dangereuses pour la santé. Les agents de la DGSE, service de renseignement extérieur français, pensent avoir identifié l'un des kamikazes qui s'est fait exploser au Stade de France le 13 novembre 2015. Il s'agirait d'Amar Ramadan Mansour Mohamed Al-Sabaoui, irakien d'une vingtaine d'années qui arrivait de Mossoul. Pendant des semaines, cet homme, soufflé par sa bombe, n'a eu qu'une identité provisoire, celle figurant sur un faux passeport syrien retrouvé déchiqueté à proximité. Les agents français affirment que sa famille a été défrayée par Daesh à hauteur de 5 000 $ américains, soit environ 4 700 €. Des mesures disproportionnées, tel est l'intitulé d'un rapport d'Amnesty International consacré aux évolutions législatives de 14 pays européens, dont la France, qui ont subi des attentats depuis 2 ans. Selon Amnesty, la vague terroriste islamiste qui a frappé plusieurs pays d'Europe est parvenue à fragiliser le socle de valeurs qui faisait la force et l'unité du vieux continent. L'une des femmes ayant accusé Donald Trump d'agression à caractère sexuel a déposé plainte pour diffamation. Elle estime que le démenti et les propos tenus à son égard, par le président américain, lui a causé un préjudice émotionnel et économique. Barack Obama a commué la peine de l'ancienne taupe de Wikileaks, Chelsea Manning. Elle retrouvera la liberté le 17 mai. La militaire transsexuelle avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks. Ex-officier, ancien porte-parole de Silvio Berlusconi, Antonio Tajani a été élu président du Parlement européen en remplacement de Martin Schulz, qui lui entend se présenter aux élections. En sélection en Allemagne. Après avoir été enfariné à Strasbourg il y a quelques jours, Manuel Valls a été bousculé lors d'un déplacement à Lamballe dans les Côtes d'Armor hier. Un jeune homme de 18 ans l'a giflé. Le candidat à la primaire de la gauche compte porter plainte. Manuel Valls, qui s'imposerait au premier tour de la primaire de la gauche, selon l'Institut BVA, mais qui serait battu au second tour par Benoît Hamon ou Arnon Montebourg. Grosse tension entre l'Inde et l'Amazon à cause d'un paillasson. Un paillasson vendu sur la plateforme américaine de commerce en ligne. Un paillasson sur lequel figurait un drapeau indien. Alors je vous laisse imaginer la tête des autorités indiennes qui n'ont pas du tout apprécié que l'on puisse s'essuyer les pieds sur leur drapeau, d'autant plus qu'en Inde, les pieds sont considérés comme la partie la plus impure du corps humain. Le mondial de handball, l'équipe de France a surclassé...
Je dis rien, vous avez vu le stoïcisme du type en face.
Ah, c'est incroyable.
Non, je digère vos infos. Vous allez loin, vous frappez fort.
C'est vrai.
Il y aurait des choses à dire.
J'essaie de déclencher
sur votre comportement, bien sûr. On y reviendra avec des spécialistes.
Le mondial de handball, l'équipe de France a surclassé les Russes hier soir. Les Français se sont imposés 35 à 24. Dernier match de poule pour l'équipe de France, ce sera vendredi contre la Pologne. Ensuite, ce sera les huitièmes de finale. La suite de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le Ghana a battu l'Ouganda 1 à 0. Le Mali et l'Égypte se sont séparés sur un nul 0 partout. Au programme aujourd'hui, Gabon, Burkina à 18h et Cameroun-Guinée-Bissau à 20h. Et puis un mot du Vendée Globe pour terminer. Armel Lecléache et Alex Thompson touchent au terme. Les deux hommes qui dominent toujours la course à la voiles sont attendues au Sable d'Olonne demain. 100 000 laissés parer lundi. Il n'y en a plus que 30 ce matin, c'est-à-dire moins de 80 km. C'est assez fou d'imaginer ces deux hommes si proches l'un de l'autre en regard de cette course si longue et si dure.
C'est vrai. Match de poule, vous avez dit, ça se dit ?
Oui, c'est les phases de poule.
Alors justement, Bernard Chambert, vous êtes placeur du mot poule dans des phrases.
Oui, effectivement, c'est exactement mon métier.
À chaque fois que le mot poule est mis dans une phrase, vous touchez de l'argent. Alors souvent, par exemple, quand on dit tiens, il y a 2 poules dans mon poulailler, c'est tout de suite 6 euros pour vous.
6 euros dans la poche.
Et dans match de poule ?
Dans match de poule, j'ai juste 50 centimes. Bon, ben, on essaie de moins le placer.
Merci, on part dans la rue avec Jacques Souvent.
On est à l'arrêt de bus Saint-Antoine.
Qui ça, on ?
Bah, on est deux,
ah oui.
Dîner. Et c'était avec une jeune fille qui était en train d'écouter au casque, je ne sais pas quoi, quelque chose, et qui était face à la place et qui était vraiment dans une bulle de silence, c'est ça ?
Oui. J'écoutais un artiste qui s'appelle Mathieu Segali et c'est vraiment quelque chose qui m'isole du reste du monde un peu pendant un instant au moins.
Tiens, on va essayer de chercher. Armel, essayez de trouver Mathieu Segali.
Mathieu Segali ?
Vous aviez envie de rester vraiment dans cette bulle, c'est ça ? De parler à personne, de rester...
Ouais, parce que j'attendais quelqu'un, mais jusque-là, je voulais un peu rester dans mon confort. Et par rapport au froid, ça m'isole bien.
Isolation thermique, isolation sonore ?
Oui, c'est à peu près ça.
Est-ce que l'incursion dans votre vie de Jacques Souvent est quelque chose que vous vous sentez... attaqué, vous vous sentez...
Ça dépend des moments, mais le matin comme ça, quand on est encore, enfin quand je suis encore fatiguée et tout, je préfère garder un moment pour moi avant de devoir aller voir les autres gens et me confronter au monde.
C'est ça, Mathieu Secagny, on en met un petit peu là, on a tout.
Oui, c'est un peu.
On écoute ensemble.
Parce que j'écoute. Enfin,
c'est pas ça.
Enfin, si, mais c'est pas cette chanson, mais bon.
Qu'est-ce que ça vous
fait cette chanson, les gars?
Ben, on a trouvé ça parce qu'on est très réactif avec Armel M. Ah ben là, il y a quelque chose tout à coup de plus agressif. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous plongez dans cet univers musical?
En général, c'est beaucoup de douceur et quelque chose de très poétique.
Comme les bras de quelqu'un d'aimé?
Peut-être, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais un peu.
Est-ce que vous préférez qu'on vous passe la main dans les cheveux ou qu'on vous fasse des bisous dans le cou?
Je sais pas. Je sais pas.
Bah oui, mais c'est une question qui se pose ce matin quand même, vu le froid qu'il va faire.
J'y ai pas réfléchi.
Vous allez aller où ce matin après?
Au lycée.
Ah, vous allez au lycée, d'accord.
Ouais.
Vous enlèverez votre casque ou pas pendant les cours?
Oui, quand même, je suis obligée, donc... Ouais.
Bah en même temps, c'est assez beau d'écouter votre chanson de Mathieu Secagny, de voir peut-être le professeur faire des gestes, non?
Ouais, mais j'ai pas le droit par rapport au règlement.
Oui.
Oui, là je vais devoir y aller en fait.
Oui, je comprends bien. Je comprends, c'est pas non plus le meilleur moment de. Je vais me remettre en question.
Désolé.
Merci. On vous embrasse, Jack.
De rien.
Oui. Oui, parce que elle est en retard. Au revoir. Oui. Allez-y.
Qu'est-ce qui...
J'étais un peu gêné de faire irruption comme ça dans la bulle sonore de cette jeune fille, mais je l'ai quand même fait. Je m'en veux.
Oui. Elle était là, elle avait son casque, elle écoutait de la musique, et puis Jack souvent est arrivé.
Ouais.
Son intérêt s'est réveillé.
Elle avait un beau regard.
Elle a écouté, elle a été intéressée, et puis je suis intervenu. Et là, tout de suite, la magie a cessé. Tout à coup, un homme, quinquagénaire déjà... avec une vieille assurance, avec un bagou qu'il croyait irrésistible, s'est pris un vent, s'est pris une humiliation, s'est pris un non, s'est pris un refus. Il s'est regardé dans le miroir de son micro, il a compris pourquoi. Il faut savoir passer la main, il faut savoir laisser la place aux jeunes. Je lui ai juste demandé, c'est pas méchant, je lui ai demandé... Si je voulais un bisou dans le cou, elle m'a dit, mais non, mais j'ai plus le temps là. Pourquoi la vie est tombée sur moi comme une enclume? Oui, bah merci mon vieux, c'est à tout à l'heure, Jack.
7h-9h plus près de toi.
Ça va?
Plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Une fois par semaine, quelqu'un de vraiment différent a droit à la parole ici, dans Plus Près de Toi. Bonjour Ammonia Kal.
Bonjour.
Ammonia Kal, tu es le bienvenu parce que tu représentes la libre parole et un corps très différent dans un monde formaté. On met ton petit générique.
Mignon, Ammonia Kal, moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon.
Il y a la petite queue du générique qui est mignonne.
Parce que c'était pour bien finir, pour ponctuer, pour que les gens ils sachent que c'était la fin du générique.
Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Ammonia Kal, donc on a compris, hein, c'est y a trois moitiés en toi qui se complètent bien, je crois, la moitié chiffon, la moitié pingouin.
Pas toujours, parce que... Des fois, les gens ils s'essuient avec ma moitié chiffon, mais ils me respectent pas. Enfin, ils me respectent, mais juste dans le côté objet.
Oui, mais tu leur es d'une vraie utilité, parce que les gens souvent sont maladroits, renversent leur verre ou leur bol de café le matin, ou de thé ou de lait. Et là, tu es utile. C'est bien d'être utile dans la vie.
Oui, mais je voudrais qu'on m'aime aussi. Pour d'autres choses.
Bah, pour ton physique, c'est difficile, mon chéri.
Mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment le dadaïsme ou qui aiment les choses bizarres.
Oui, bien sûr, on peut aimer le bizarre, mais c'est un usage différent. Ammonia Kal, tu as des idées de métier pour subvenir à tes besoins?
Ben non, justement, J'ai un ami méduse qui a une frange et il a une moto, mais il n'arrive pas à mettre son casque parce qu'il est trop mou. Il m'a dit peut-être que je pourrais faire du stand-up.
C'est bien le stand-up parce que tu fais rire les gens, ça leur fait du bien.
Oui, ce serait bien que je puisse faire rire les gens.
Oh mon chéri, non, mais tu as une petite idée de sketch ou de personnage de stand-up?
Oui.
Alors c'est... on t'écoute, on a une petite musique, on va écouter. Alors c'est le stand-up d'un maniaque.
C'est un pingouin qui est dans un arbre avec un ami dauphin et il dit ça va? Oui. Alors il y a une licorne qui arrive et qui dit on peut faire un barbecue. Alors le dauphin il dit oui mais on n'a pas de pique à brochette. Ah ben si, j'ai ma corne.
Oui c'est bien sûr. Mais tu vois, tu ne respectes pas les règles du stand-up maniacal, tu vois. Mais tu vas y arriver.
Tu crois?
Tu vas remplir des salles.
Je vais remplir des salles avec quoi? Avec du sable?
À demain, ammoniacal.
Attends, j'en ai une autre.
Oh.
C'est un dauphin et un panda et un koala qui sortent de chez Auchan.
Oui.
Et une chèvre. Et il dit à la chèvre, tu te rappelles où on est garé? Dans quelle travée? Et la chèvre, elle dit... Ben.
C'était un extrait du Ammoniacal Comedy Club. A tout de suite. Alka et Philippe Catherine, formidable. Bonjour Marie Missé.
Bonjour Edouard Berg.
Je
ne
vous ai pas vu ce matin, Marie, vous étiez
non,
enfermée.
Non, je me suis cachée. Je me suis cachée, j'avais beaucoup de choses à lire et je me suis perdue dans des feuilles. Et je me suis dit, il faut que je reste seule jusqu'au moment.
Mais vous dites, je me le suis dit, c'est-à-dire vous parlez tout haut ou c'est...
Ah oui, je parle souvent seule.
Oui. Oui. Par exemple, quand vous rentrez, je vous dis, ah ben voilà, je vais me faire un petit steak.
Ah bien sûr, oh, ben, Armel peut en témoigner. Oui,
ah ben
oui.
Alors si Armel, c'est que vous n'êtes plus seule.
Oui, non, mais je parle seule à moi-même, Armel n'étant pas loin.
Mais, alors, est-ce que par exemple, quand vous vous parlez, vous vous répondez aussi?
Ah oui, bon, ben, je peux complètement répondre. Non, mais t'inquiète pas.
Ah oui, donc il y a tout un petit monde. Est-ce qu'il y a un autre contradicteur?
Il y a beaucoup de gens. Alors, beaucoup de contradicteurs, tous.
On va en écouter qu'une ce matin.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Ce matin, alors que le froid gronde, j'ai décidé de vous parler d'un sujet vraiment chouette et très chouette, la solitude. Pour commencer, qui n'a pas fantasmé une fois, quand il était petit, d'être orphelin quand il jouait? Les orphelins peuplent et squattent l'imaginaire des enfants. Il y a Harry Potter, mais aussi Oliver Twist, Heidi, les orphelins de Baudelaire, La vie à cinq, pour ceux qui se rappellent. Eh bien, dans la vie, être orphelin ne promet pas toujours des aventures extraordinaires. En revanche, Lacroix, qui consacre son dossier du jour, souligne la solitude qui entoure ceux qui perdent un papa ou une maman très tôt, trop tôt. Même sur Internet, assure une femme qui témoigne, même sur Internet, où l'on trouve des forums sur les adeptes du mohair coquin ou de l'urine de renard, il n'y a pas de forum sur le sujet. Trop de pudeur, sans
doute. Du mohair coquin.
Oui, alors vous connaissez les adeptes du mohair coquin, je vous invite à les rencontrer, Edouard. La pudeur aussi qui empêche les professeurs ou les accompagnants d'aborder le sujet avec les enfants qui traversent cette tristesse à l'école ou au collège. 60% d'entre eux, de ces enfants, font comme si de rien n'était une fois entrés à l'école, souvent très rapidement. Un des problèmes, souligne le pédopsychiatre Guy Cordier, c'est que souvent on éloigne les enfants des rituels comme l'enterrement, par exemple, en pensant les éloigner de la souffrance. Résultat, ils sont abandonnés une deuxième fois à eux-mêmes face à ce truc assez incompréhensible, peut-on le dire, qu'est la mort. Ce sentiment
d'être... Donc il faut emmener les enfants aux enterrements. Très bien.
Il faut leur faire vivre les rituels qui accompagnent la mort de quelqu'un. Ce sentiment d'être abandonné à son sort, c'est aussi beaucoup celui des électeurs de Trump, interviewés ce matin à la fois dans La Croix en Virginie-Occidentale et dans Le Monde en Louisiane. On y a voté beaucoup pour Trump dans ces deux États. La phrase revient dans les deux articles sur des modes différents. On n'avait pas le choix. Dans Le Monde. Ici, il n'y a pas de plan B dans La Croix. Sharon résume le sentiment de beaucoup de ses voisins dans ce comté de Louisiane qui a voté Trump à 88% et qui pourtant votait Obama en 2004 et 2008. Elle dit « Les mouvements sociaux noirs, défenseurs des immigrés, des réfugiés, défenseurs de la nature, ils reçoivent tout naturellement la sympathie et l'aide du gouvernement. Moi aussi, j'ai de la sympathie pour eux. » mais qui en a pour nous. Et encore d'autres dans la presse abandonnés à eux-mêmes ce matin, c'est les soignants partout en France qui souffrent de la déshumanisation de leur métier. Pourtant, quand on teste autre chose que la solitude dans son travail, ça marche. Par exemple, au CHRU de Tours, dans un des services, on teste la démarche participative. Tous les matins, aides-soignants, infirmiers, médecins discutent de chaque patient. Les premiers à parler sont les aides-soignants, plus proches des patients, qui sont ensuite en première ligne pour parler de leur état d'esprit. Ensuite, médecins et infirmiers discutent aussi. L'infirmier pourrait juste recevoir des ordres des médecins, lit-on, mais un tel système nous déshumaniserait. Les bénéfices sont multiples pour les pros. Ils donnent du sens au travail, réduisent le stress, renforcent l'équipe et désamorcent les conflits. Et puis au final, le bénéficiaire, c'est le patient. Dans le service d'à côté, la démarche participative n'est pas suivie au CHRU de Tours. Grève et manifestations se succèdent. En cause, un management malmenant, l'absence de dialogue, bon, et puis disons-le, le manque de personnel. Je vous ai emmené dans ce petit moment de tristesse, Edouard, mais pour aller vers autre chose de plus joli, je vous emmène dans le désert avec Raymond Depardon qui témoigne dans un grand entretien à la très belle revue Relief, réservée cette fois aux galaxies. Avec lui, on se rend compte que quand elle est choisie et pas subie, la solitude peut être merveilleuse. C'est vrai qu'un voyage se fait vraiment seul, dit-il. À deux, ça va, au-delà, c'est la foule. Tout seul, c'est une merveille. C'est dur au début, mais c'est une merveille. Et surtout, ça permet des rencontres extraordinaires, si on en croit l'histoire qu'il raconte ensuite et que, si vous me permettez, si j'ai encore le temps, je vais vous lire.
C'est la solitude des étoiles, non ?
La solitude, on peut se retrouver face aux étoiles, mais on peut se retrouver ensuite seul quand on voyage et rencontrer des gens. Et c'est ce qui lui est arrivé en 1978. Il dit, alors que je suis au Pakistan, on me propose de rejoindre la rébellion. Je leur demande si je peux avoir un guide qui parle français.
Reprenez un tout petit peu plus lentement les traits de Raymond Depardon.
Un jour, en 1978, alors que je suis au Pakistan, on me propose de rejoindre la rébellion. Et je leur demande si je peux avoir un guide qui parle français, car je ne parle pas très bien anglais. Arrive timidement à la porte, à 10h du soir, un homme qui parle très mal le français et qui me dit « Je vais vous habiller parce que vous êtes trop occidental, on va aller au bazar de Peshawar ». Il m'a habillé de la tête aux pieds et j'ai demandé « Et mes yeux bleus ?» Il m'a répondu « Il y a des gens au Nouristan qui ont les yeux bleus, vous ne risquez rien, mais ce qu'il faut c'est que vous ne parliez jamais ». Je suis donc partie avec lui pendant un mois. Il m'a raconté la lutte de l'Afghanistan pour la liberté. J'ai fait plein de photos, mais j'ai aussi fait une erreur. J'ai pris en photo un garde-frontière à la frontière pakistanaise. Il ne fallait pas. Mon guide a été gardé prisonnier. Il avait tous mes films dans son sac à dos. Il a eu le temps de me dire en français « Cours, 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 on se retrouvera à Peshawar ». Alors j'ai couru comme un dératé pendant des heures, poursuivi sans doute par des gardes-frontières. Je suis montée dans un camion, un bus, etc. Je suis arrivée à Peshawar et j'ai attendu que mes films reviennent. Un jour, mes films sont revenus et j'ai dit au revoir à mon guide. C'était le commandant Massoud.
Merci, la solitude, ça n'existe pas. Léo Ferrel chantait déjà.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude.
Interrompre Léo Ferret pour passer la pub, c'est une des ironies violentes du métier de matinalier de la radio.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi,
non ? Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Juste avant le journal, Françoise Poulard chante la pub. Retrouvez le meilleur de Françoise Poulard chez elle.
Radio Nova.
Non, Françoise, là vous êtes dans le journal.
La Chine a interdit aux bureaux locaux de la météo d'émettre des alertes à la pollution de l'air. Les villes de Chine sont régulièrement frappées par un brouillard grisâtre chargé de particules fines, très dangereuses évidemment pour la santé. Ce mercredi est donc la journée la plus froide de la semaine, sans doute même de l'hiver. François Hollande doit présider, c'est en ce moment, d'ici un quart d'heure, une réunion ministérielle sur la mise en œuvre du plan Grand Froid. Concernant l'approvisionnement électrique, le pays sera suffisamment approvisionné aujourd'hui, mais la situation est sous forte vigilance pour les jours à venir. Et puis le Sud-Est connaît en revanche une situation plutôt préoccupante pour son approvisionnement en gaz du fait du quasi-arrêt des livraisons depuis l'Algérie.
J'appelle tous les Françaises et les Français qui pensent que le gouvernement Cazeneuve et le président Hollande sont complices du froid et sont à l'origine d'un hiver si rude de se rassembler.
Avec un bonnet, bien sûr. Les agents de la DGSE... il fait froid.
Je comprends pas. Ce second degré, ça vous perdra.
Les agents de la DGSE, le service de renseignement extérieur français, pensent avoir identifié l'un des kamikazes qui s'est fait exploser au Stade de France le 13 novembre 2015. Il s'agirait d'Amar Ramadan Mansour Mohamed Al-Sabaoui, irakien d'une vingtaine d'années, qui arrivait de Mossoul. Pendant des semaines, l'homme soufflé par sa bombe n'a eu qu'une identité provisoire, celle figurant sur un faux passeport syrien retrouvé déchiqueté à proximité. Les agents français affirment que sa famille a été défrayé par Daesh à hauteur de 5 000 $ américains, environ 4 700 €. Des mesures disproportionnées, tel est l'intitulé d'un rapport d'Amnesty International consacré aux évolutions législatives de 14 pays européens, dont la France, qui ont subi des attentats depuis 2 ans. Selon Amnesty, la vague terroriste islamiste qui a frappé plusieurs pays d'Europe est parvenue à fragiliser le socle de valeurs qui faisait la force et l'unité du vieux continent. Ex-officier, ancien porte-parole de Silvio Berlusconi, Antonio Tajani a été élu président du Parlement européen en remplacement de Martin Schulz, qui lui entend se présenter aux élections en Allemagne. L'une des femmes ayant accusé Donald Trump d'agression à caractère sexuel a déposé plainte pour diffamation. Elle estime que le démenti et les propos tenus à son égard par le président élu lui a causé un préjudice émotionnel et économique. Plusieurs groupes de chercheurs et professeurs en anthropologie américains ont planifié vendredi, donc le jour de l'investiture de Donald Trump, d'organiser des lectures publiques consacrées notamment à Michel Foucault, consacrées plutôt à son ouvrage « Il faut défendre la société » qui regroupe une série de conférences données au Collège de France en 1975 et 1976. Les textes de cet ouvrage seront déclamés dans tout le pays, donc vendredi, et notamment à la prestigieuse Université de Columbia. Barack Obama a commué la peine de l'ancienne taupe de Wikileaks, Chelsea Manning. Elle retrouvera donc la liberté le 17 mai. La militaire transsexuelle avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks. À peine la Maison-Blanche avait-elle annoncé cette décision que les réseaux sociaux exultaient. Des milliers de messages d'internautes, de célébrités, de défenseurs des libertés publiques ont salué la décision. La Gambie sous tension, à 2 jours de l'investiture d'Adama Barrow comme président du pays, le président sortant Yahya Jammeh décrète l'état d'urgence. Ce dernier ne reconnaît pas la victoire de son successeur. Après avoir été enfariné à Strasbourg il y a quelques jours, Manuel Valls a été bousculé hier lors d'un déplacement à Lamballe dans les Côtes d'Armor. Un jeune homme de 18 ans a giflé le candidat de la primaire de la gauche qui compte bien porter plainte. Manuel Valls qui s'imposerait au premier tour de la primaire de la gauche selon l'Institut BVA mais qui serait battu au second tour par Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. La commission d'investiture nationale des Républicains a accordé la 2e circonscription de Paris à Nathalie Kosciusko-Morizet. Cette circonscription étant celle de François Fillon, la candidate est quasi assurée d'y être élue députée. Le mondial de handball, l'équipe de France a surclassé les Russes hier soir. Les Français se sont imposés 35 à 24. Dernier match de poule pour l'équipe de France vendredi contre la Pologne ensuite. Ensuite, ce sera les 8e de finale. Les suites de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, au programme aujourd'hui Gabon contre le Burkina à 18h et Cameroun-Guinée-Bissau à 20h. Hier soir, le Mali et l'Égypte se sont séparés sur un nul 0 partout et le Ghana a battu l'Ouganda 1-0. Et puis le Vendée Globe, enfin pour finir, Armel Lecléache et Alex Thompson touchent au terme. Les deux hommes qui dominent toujours cette course à la voile sont attendus au Sable d'Olonne demain. 100 000 les séparés lundi, il n'y en a plus que 30 ce matin, c'est-à-dire moins de 80 km.
Thierry Paret, comme beaucoup de Français, je m'interroge, qu'est-ce que représente votre t-shirt ?
Je te laisse imaginer ce que tu as envie d'imaginer, en fait.
Décrivez-le, peut-être.
Alors, ce sont des hommes qui, on a l'impression qu'ils font du... comment on appelle ça ?
Bobsleigh.
Du bobsleigh. Ils ont un casque et ils poussent un caddie de supermarché.
Faute de pousser un bobsleigh, ils poussent un caddie.
Est-ce que c'est une sorte de rhétorique auto... Voilà, c'est ça, on parle consommation.
On peut imaginer ça. On peut imaginer ça.
Jacques Souvent est dans la rue, à la
rencontre...
Renvoie le micro.
Allô ? Allô ?
Oui ?
Je voudrais qu'on passe Ammoniacal.
Alors Ammoniacal est reparti au zoo.
Passez-moi Ammoniacal.
Qui est au téléphone ?
C'est Omar, c'est Titou.
C'est Pitou ?
J'ai laissé un message sur Speed Tinder, il m'a pas répondu.
Pitou, vous êtes fumeur ?
gueule, passe-moi mon gueule.
Oh, tu vas me faire les tranches un petit peu plus fines, Pitou.
Mon gueule, c'est moi. Je t'aime, je vais te protéger. Mon gueule.
Merci de m'avoir fait vivre ce moment, Jack, souvent. Dites-moi, Laurent Sexy, Romain Gary s'en va en guerre. Votre livre aux éditions Flammarion sort aujourd'hui.
Oui, c'est comme une avant-première, mais où il ne se passe rien généralement dans la vie d'un écrivain le jour de la sortie.
C'est émouvant comme de se dire qu'il est dans les librairies là. Vous allez vous balader, vous allez voir.
Je vais en faire quelques-unes quand même. Je m'empêche à chaque fois de le faire et puis en été je rentre et je regarde où est le livre. C'est toujours un plaisir. C'est 2 ans de travail solitaire, de réclusion volontaire.
Enfin, vous l'objet, vous l'avez eu en main quand même. Vous l'avez touché, vous l'avez caressé.
Il y a une espèce de fétichisme de l'objet. Moi, j'adore le sentir. J'adore sentir les livres. Espèce d'odeur d'imprimerie.
Si on le laisse, il faut le laisser dans certaines maisons, dans certains endroits, et après quelques années, il est pénétré toutes les odeurs et des poussières.
Les vieux livres ont un charme qui est à la fois discret et tellement... Ça remplit une pièce, des vieux livres.
Alors, lit-on encore Romain Gary? Pour moi, ma génération, c'est un auteur essentiel de lyrisme, de poésie, de tendresse, d'émotion. Il s'est engagé aux côtés de Gaulle. Il a eu une vie aussi qui a fait rêver des générations de gens. Une vie aventureuse, une vie imaginaire, puisqu'il a créé un double aussi à la fin de sa vie. Un autre écrivain qui s'appelait Émile Ajar, qui était aussi lui. Il a eu mille vies. Juste réécoutons un tout petit extrait, un moment à la radio. Il parle des femmes, de féminisme, de féminité.
Et à ce propos, je viens d'entendre quelque chose de tout à fait juteux et de tout à fait... radieux, je dirais même, dans l'imbécilité. J'ai dit quelque part, dans un de mes livres, qu'il me semble plus je vais dans la vie et plus il me semble que la plus grande force spirituelle de tous les temps, c'est la connerie. Et justement, maintenant, vient d'éclore en Allemagne une théorie très subtile contre les femmes, au fond. On dit que les hommes, d'abord, sont exposés au contact des femmes. La mère, la gouvernante, les amis de la mère. Et qu'en ce sens, on peut donc dire que cette civilisation, avec tous ses abominables défauts, est une création de la femme. Je dois dire que, vous savez, quand on vit jusqu'à l'âge de 60 ans, on collectionne des monstruosités, on collectionne des imbécilités, mais là, vraiment, ça va trop loin. Parce que ce que ce Minus oublie de dire, c'est que cette femme qui crée l'homme, cette mère qui crée et élève l'alpha, elle est elle-même victime depuis des millénaires de la formation par les hommes, de la déformation par les hommes, de l'exploitation par les hommes, du servage par les hommes, de la servitude par les hommes, de la mutilation psychologique par les hommes, de la frigidité par les hommes, et que la femme elle-même est au premier rang des victimes de l'homme et de la formation par les hommes. Et donc, si la femme, s'il est vrai que la femme forme l'enfant et forme l'homme, c'est encore le résultat de la dictature masculine sur le sexe féminin.
Alors, on a un tout petit peu chargé en son ce petit montage sur Romain Gary, mais on entend bien comme c'est un des premiers qui parle de la frigidité, de la nymphomanie, mais avec beaucoup de compassion, de tendresse pour les femmes et beaucoup d'autres choses qui sont mal perçues souvent par les hommes. Quel Romain Gary on découvre, Thomas Baumgartner?
Le premier, en fait.
Dans le livre de Laurent.
Le tout premier, peut-être qu'il est même. On est au moment de cette promesse, juste après ce qui fera le titre d'un de ses romans les plus fameux, La promesse de l'aube. Laurent Sexy, cette promesse de l'aube, c'était la promesse que fait la présence de la mère, qui s'appelle dans votre roman, qui s'appelle Nina. Cette mère qu'on retrouve donc aux côtés de son fils, Roman Katsef, puisque c'est son vrai nom, à Romain Gary, on les retrouve à Vilno, aujourd'hui Vilnius, donc le lieu de naissance de Romain Gary. On l'entendait à l'instant parler des femmes, la première femme, celle qui compte peut-être encore le plus, y compris à la fin de sa vie, c'est sa mère. Et vous choisissez d'aller dans ce moment-là, cette racine-là, peut-être la racine de toutes les fictions des vies de Romain Gary.
Oui, en fait, on associe toujours le génie de Gary à sa mère. Il a bâti une légende de la mère, c'est la mère absolue, c'est la mère aimante, c'est la mère dont il est amoureuse dans La promesse de l'aube, en effet. Et puis, toute sa vie. Et puis, là, vous avez un livre, Édouard, La nuit sera calme devant vous. Juste ce qui est étonnant chez Gary, c'est que jusqu'à la fin de ses jours, il a prétendu que son père était le plus grand acteur russe du cinéma muet. Et dès l'âge de 14 ans, quand il était à Nice sur la promenade des Anglais, il disait à ses amis, tu vois ce type là-bas, entouré de starlettes, portant un vison avec des bagues, c'était un russe blanc à Nice, tu vois, c'est mon père. cet immense acteur, c'est mon père, mais il y a un pacte entre nous. Comme je suis son fils illégitime, je n'ai pas le droit de lui dire. Mmh. Et toute sa vie, jusqu'à ses derniers jours, et là on a entendu sa voix sur sa fin, il avait 60 ans avant son suicide, il prétendra que son père est cet acteur russe, comme s'il s'était à nouveau bâti une légende.
Ivan Mozhukin.
Et en réalité, la réalité n'a rien de ce conte de fées. Mmh. Son père est quelqu'un d'autre. Et donc avant d'inventer Émile Ajar, avant d'inventer un pseudo, cet homme a inventé son père. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de chercher la racine de ce mensonge sur laquelle il a bâti sa vie et sans doute son œuvre, de chercher quel était son vrai père, et donc de dévoiler à travers un roman, parce que d'ailleurs, c'est pas un roman à thèse, c'est avant tout une histoire, c'est 24 heures dans la vie du jeune Romain Gary, du jeune Romain Katchev, de chercher la trace de ce père et de montrer et d'essayer de comprendre ou d'éclairer ce qui a pu motiver tout ce refus du père, tout ce il a en quelque sorte tué son père, j'ai essayé de lui redonner de la vie.
Redonner de la vie aussi aux raisons d'un mensonge. C'est-à-dire que cette Nina, mais aussi la présence de ce père qui n'est pas complètement absent, en tout cas dans le roman, Arié, on voit qu'il lui ment aussi, qu'il lui ment pour lui faire plaisir, que Roman ment à son père pour lui dire « je serai fourreur, comme toi ». Et il dit « voilà, c'est peut-être que cette promesse-là va le faire revenir dans le foyer ». Il est aussi au service de cette mère, ultra présente. Le mensonge ou le fantasme Ivan Mozhukin, c'est elle aussi qui lui met sous les yeux ou entre les mains, en tout cas dans votre roman.
C'est une mère qui promettait à son fils d'être diplomate. Vous avez lu La promesse de l'homme, Edouard, d'être diplomate, d'être un grand écrivain. Il a réalisé tous les vœux de sa mère. C'est assez incroyable. Je ne sais pas ce que souhaitait votre maman pour vous, alors vous avez dû la combler. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, à la fois a semblé courir derrière les rêves de sa mère et en même temps a cherché pendant toute son existence à être reconnu et en est mort. Il s'est suicidé parce qu'il avait monté cette espèce de stratagème complètement fou de devenir un autre et de devenir Émile Ajar. Donc il a eu pour la seconde fois le prix Goncourt et ne pouvait le dire à personne. C'était une espèce de drame intérieur, en fait, qu'il s'était choisi de vivre. Il en est mort. Et je pense que ce besoin de reconnaissance, ce besoin absolu d'être reconnu par le plus grand nombre, de renouveler sa vie, d'inventer une autre vie à l'âge de 55 ans avec une autre voix, avec Émile Ajar, c'était aussi parce qu'il n'avait pas été reconnu par son père. Et donc, il y a dans ce livre la tentative, par la voix romanesque, d'expliquer le destin d'un homme et d'un homme exceptionnel.
Laurent Sexic, avec ce roman « Romain Gary s'en va en guerre » qui paraît chez Flammarion aujourd'hui même, on se rend compte que Gary, 36 ans après sa mort, après son suicide, reste encore une matière à fiction. Il a été sa propre matière de fiction. Il s'est inventé, vous l'avez dit, de multiples vies. Il a été combattant, aviateur, force française libre, enfin... Et écrivain, évidemment, de multiples fois et sous plusieurs pseudos, parce qu'il n'avait pas que Émile Ajar comme pseudonyme. Et aujourd'hui, 36 ans après, pour vous, il est encore matière à fiction. C'est quand même étonnant, cette profondeur pour un tel homme.
Ça fait partie de ces hommes. Alors, il y a eu Zweig avant. Moi, j'avais écrit Les derniers jours de Stéphane Zweig. Ça, ce sont les premiers jours de Romain Gary. Mm-hmm. Cela fait partie de ces hommes qui ont à la fois une œuvre immense et une vie d'exception, un destin d'exception, auquel on est attaché. C'est notre frère en humanité, c'est notre oncle. Et moi, j'aime à penser que lorsque Stéphane Zweig s'est suicidé en 42, en février, Romain Gary a commencé à écrire en 43. Il y a une espèce de passage de flambeau entre cet humaniste qui était Zweig, cet amoureux des femmes, cet amoureux de la passion, cet amoureux de la vie. Un passage de flambeau, une sorte de passage de témoin entre Stéphane Zweig et Romain Gary, et qu'il y a eu cette œuvre qui s'est annoncée, qui a fini aussi tragiquement que celle de Zweig.
C'est ça qui est étrange aussi dans les gens dont on a l'impression qu'ils ont une vie qui nous fait rêver d'aventures, de rencontres brillantes, clinquantes. C'est la tragédie qu'il y a dans les yeux de Romain Gary.
La tragédie qu'il y a dans ses yeux, dans sa voix, on l'a entendu, même si c'est assez curieux parce qu'il y a beaucoup plus de, pour ceux qui l'ont pas lu et qui l'ont entendu, il y a beaucoup plus de douceur dans ses livres. Ses livres, ce sont des océans de tendresse et qu'on embrasse. Et c'est vrai qu'il y a cette lueur de drame qui perce derrière ce qui pouvait paraître parfois comme de la dureté dans sa voix là. Il y a tout un drame. Il y a aussi cette pudeur extrême de n'avoir jamais dit durant toute sa vie les drames qu'il avait vécu et que j'essaye de condenser dans ce livre.
Qui est très beau, cher Laurent. Romain Gary s'en va en guerre. Aujourd'hui, chez tous les bons libraires, comme on dit chez nous. Un dernier mot, Thomas ?
Mais non, je confirme, c'était un très beau livre jusqu'à l'épilogue où on se rend compte que Romain Gary est une promesse et donc aujourd'hui on vous en fait une, c'est ce roman, voilà.
Voilà, mettez une fausse moustache, cher Laurent Sexic, et allez enquêter dans la librairie, voir qui achète vos livres, c'est toujours intéressant. Qui nous lit, qui nous écoute, on ne saura jamais.
Merci.
Des bisous, c'est ce que vous dites, Edouard, des bisous.
Non, parce que je cherchais une chanson qui s'appelle Des bisous. Qu'est-ce qu'on veut, des bisous, une chanson de Philippe Catherine. Oui. Pardon, je ne savais pas que j'étais à l'antenne, c'est très intimidant.
Moi non plus, je ne sais pas que je suis à l'antenne.
Non, mais vous n'y êtes pas.
Ah oui, je ne suis pas à l'antenne.
Publicité.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
T'as écouté la pub, Pat?
Ouais, c'était très bien. Bravo, ouais. Hein, belle pub.
Merci. Pourquoi t'es pas avec nous au Café Nova, là, pas de Good Vibes?
Ben, je suis à Angers, Edouard. Tu sais, malheureusement, j'adorerais être là, moi. Mon bonheur, ma joie.
Il te libère quand?
Je suis à Angers, mais je vais pas y rester longtemps, crois-moi, Edouard. Je reviens très vite.
De toute façon, dès que le jugement sera prononcé, tu seras libéré à ce moment-là.
Ah, mais il me libère immédiatement, oui. Bah, ça peut durer 2-3 ans. Hein, mais
oui, on expliquera pour ça tout de suite, Pat.
Rock'n'roll.
Ouais, rock'n'roll attitude, reste avec nous, on est avec Jacques Souvent dans Paris. À tout de suite, Pat.
Oui, et pourquoi faut gratter comme ça, alors, avec le cutter?
J'ai fait les fissures, monsieur.
Oui, les fissures de la porte.
Faut d'abord gratter avant de mettre l'enduit, bien sûr.
Bah non, d'abord, monsieur, je décape. Ensuite, je passe mes fissures. Ensuite, je vais poncer avec une machine, parce qu'il y a beaucoup de peinture. Ensuite, je vais passer un peu d'enduit. Ensuite, je vais peindre.
Et c'est sur combien de temps, monsieur, là, tout ça?
Monsieur, là, ça fait 2 jours que j'y suis.
Ouais.
Et j'ai bientôt fini ma grande porte parisienne.
Et vous êtes en extérieur, là?
Ah oui, monsieur.
Mais alors, vous voulez cahier sévère, là?
Bah, c'est mon métier, monsieur. Je suis content d'aimer les cahiers sévères.
Et vous avez la peinte en quelle couleur, cette porte?
Ah, mon patron m'a pas encore dit. Il a mon patron en train de voir les ingénieurs.
Il est où, le patron? Il est où, patron? Il est là?
Non, il est au bureau. Il est pas là. Oh. Il est au bureau, le patron.
Étrange, ce patron qui n'est pas là.
Ah non, mais il y a mon chef, il est très bien.
Bon,
il y a
mon chef. Courage, monsieur. On vous laisse poncer dans le froid. Merci. Le patron n'est pas là. Être seul dans l'hiver à poncer, à limer, à frotter. Mais où est le patron?
Peut-être est-il là-bas, sur une île ténébreuse, entouré de 1000 créatures odorantes avec des poitrines sirupeuses, lorgnant des pêcherelles.
Peut-être est-il entre 2 avions, un doigt Caracas, l'autre dans un hélicoptère.
Et cet avion qui vole là-bas au loin, tandis que je burine cette porte.
Oh, porte, porte, ma seule amie, oh, ma confidente des jours d'hiver, dis-moi, suis-je beau en ton miroir de bois?
J'installe ici une porte pour franchir demain un intérieur d'un extérieur, une intimité d'une sociabilité.
Ouvrir la porte, la refermer. Et puis se dire que c'est fini parce qu'il est 9h et que voici, juste avant les 30 Glorieuses, nos amis Thomas et Yacine qui sont en train de faire des pompes. Nous, on vous dit à demain et gloire à Thierry Paré. Gros bisous,
Edouard Baird.
7h-9h. Plus près de toi.
Point final.